mondiale.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Eh bien le bonjour dans l'heure CV à 10h02. On est un peu en retard sur notre rendez-vous. On a jasé de plein d'affaires avec Reg Against le matin, la belle gang. Donc voilà pourquoi notre petite émission de 10 à 11 est retardée. Mais, on est bien là, bien en selle. J'espère que vous aussi témoignez de votre présence au 418-971-1021. J'ai hâte de voir même ceux qui n'ont jamais texté, texté. Comme ça, on va pouvoir mettre des noms dans la banque. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez. C'est votre choix d'identité pour le 418-971-1021. Mon nom est Pascal et je vous accompagne durant l'heure CV. Aujourd'hui, le prof d'en cause va venir faire son tour. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Et il a signé sa dernière chronique dans le Journal de Québec récemment. Il va continuer avec nous ici. Il va continuer sa route à Boulevard 102.1. Mais j'ai hâte de savoir pourquoi il a mis un terme à 8 ans de collaboration, 8 ans de parcours à dire ce qu'il pense et ce qu'il voit sur les bancs d'école. Entre autres aussi avec tout ce qui se passe avec la FAE. On va en jaser. Puis, bien sûr, d'autres enjeux importants, dont le texte qu'a signé Patrick Lagacé aujourd'hui sur tout cela. Hier, on en jasait. Est-ce qu'on a le droit de porter des signes religieux dans nos écoles lorsqu'on est enseignant? Il y en a qui sont en accord, il y en a qui ne sont pas en accord. Et là, on s'en va en Cour suprême pour essayer de départager tout ça. Est-ce un droit ou c'en est pas un? Autre chose, bien, en nouvelle, ça va très vite. Entre autres, Santé Québec qui a annoncé Geneviève Biron à la tête de l'organisation. C'est le Top Gun. Ouais, c'est le Tom Cruise de la santé qui a été annoncé hier. On a des défis qui attendent cette nouvelle PDG, les urgences qui débordent, le manque de personnel, la liste d'attente en chirurgie, le virage numérique. J'ai choisi de tousser, je n'y avais pas de tout, mais virage numérique, oh, polaï. Et 330 000 employés sous sa responsabilité, c'est pas rien. Est-ce que ce sera la nouvelle façon pour Christian Dubé de se dédouaner, pour utiliser le verbe, de bien des scandales en santé, bien des défis? Est-ce que ce sera toujours sur la chaise et où le bureau de Geneviève Biron, ce genre de choses-là. Chose certaine, elle arrive du privé et du public. Elle a travaillé dans diverses organisations, en fait, où elle a été en gestion. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Maintenant, elle est en santé dans ce qu'on appelle le remaniement Dubé. Hein? Oui, il y en a un qui a essayé de faire ça il y a quelques années. Gaëtan Barrette, ça a plus ou moins été facile. Le gros paquebot de la santé ne se tourne pas comme qui le souhaite. Et peut-être qu'on réussira cette fois-ci avec Christian Dubé et Mme Biron. Le point d'interrogation va à la fin de la phrase. Le proverbe d'aujourd'hui, je le trouve bon. Il me parle beaucoup et je veux l'appliquer aussi, toujours plus, dans ma vie. C'est à vouloir trop avoir, on perd tout. Je trouve très bon ça. Êtes-vous capable au quotidien d'aimer, de valoriser et d'être heureux de ce que vous avez dans les plus petites choses? À vouloir trop avoir, on perd tout. C'est le proverbe du jour dans leur CV. Et allez-vous couler un café avec les vulgaires machins, c'est obsolète, à Boulevard 102.1. On commence ce show-là maintenant. On avait prévu le coup, on l'avait annoncé, cette température un petit peu plus grise aujourd'hui, mais alternant soleil-nuage, c'est ce qu'on aura en ce début de journée. Après ça, ça pourrait devenir que nuageux pour l'après-midi. Ça va monter jusqu'à 9, température printanière sans pluie. Demain, mercredi, par contre, on retrouve le soleil partout sur la grande région de Québec. Ça va nous faire du bien. Un peu de soleil comme ça, on en prendrait plus. C'est comme si on n'en avait jamais assez une journée, puis après ça, on retombe avec des nuages. Et c'est le cas pour jeudi. On retombe avec des nuages et de la pluie, mais ensuite du soleil vendredi et samedi. Les températures ne font que monter. Là, je vois même du 19 degrés là, au courant des prochains jours, mais on en reparlera justement. On est ensemble jusqu'à vendredi de 10 à 11. Il y a plein de petites nouvelles à mentionner. Je vous en parlais justement avant de partir avec les vulgaires machins. Une annonce hier qui était attendue. La nouvelle Top Gun. J'entends juste cette chanson-là à chaque fois qu'on en parle. La nouvelle Top Gun en santé, Geneviève Biron. Elle arrive du privé en santé. Elle s'en va en public. Tout juste arrivée, elle est dans une danger zone. Puisque puisqu'elle provient du privé en santé, elle fait déjà grincer des dents dans l'opposition chez les syndicats. Je vous rappelle que dans les derniers jours, il y a eu le rejet de l'entente avec la FIC pour les infirmières qui veulent retourner négocier. Elle est bien en place, mesdames et messieurs, pour goûter à cette dangereuse zone. On peut pas dire qu'elle manque de courage d'avoir accepté ce poste-là. Est-ce que c'est le salaire? Hein? On sait que c'est un salaire de plus de 500 000 $ avec un 15 % en boni pour les deux prochaines années. Également, ben, je veux dire, c'est des conditions importantes, mais ce sera du travail et pas à peu près. Et assurément qu'elle ramassera les pots cassés pour Christian Dubé au courant des prochains mois et du moins pour son mandat en partie parce que, comme on le sait, c'est loin d'être facile d'être au sommet d'un gouvernement en ce moment avec tout ce qui se passe et les enjeux à aborder. Un réseau de cambrioleurs est peinturé partout dans les médias aujourd'hui. Mais c'est très intéressant. Hein? Ça va avec un peu ce que tout le monde vit finalement. Je ne vous dis pas qu'on est tous rendus des bandits de la viande. Mais il y a un réseau de cambrioleurs qui est bien en place. Chez les épiciers, on se rend compte qu'il y a des criminels bien organisés qui dérobent des paniers remplis de denrées alimentaires et... Dans ces denrées-là, il y a beaucoup de viande. Donc, ça va peut-être avec l'insécurité alimentaire, mais chose certaine, c'est des regroupements importants qui ont commencé à créer ce fléau-là, tellement qu'il y a des commerçants qui veulent renforcer leur sécurité puis installer des dispositifs anti-vol sur la viande. C'est pas rien. C'est sincère. Donc, il y a des fois un petit collant là, qui est ajouté sur la pellicule de plastique qui enrobe le beefsteak, là. Puis qui pourrait sonner si jamais ça n'a pas été payé ou autre. Mais on s'est rendu compte qu'on perdait énormément d'argent du côté des détaillants parce qu'il y avait plein de petits larcins. Mais il y avait cette organisation-là qui est rendue super importante. Et on a commencé à prendre la parole dans les médias parce qu'on s'est dit ça n'a pas de sens. Là, ce sont des réseaux de crimes organisés qui augmentent. Et certains vont même qu'à voler des paniers complets de produits de luxe, partent sans payer. Certains en revendent. C'est ça qui est un peu fou, là, revendre de la nourriture. Je pensais pas voir ça de ma vie, là, honnêtement, à part dans des restaurants. Mais là, c'est le cas et c'est à signaler. Donc, beaucoup sur la viande. Vous allez voir des petites étiquettes peut-être chez votre marchand commencer à s'ajouter. Elles sont jaunes, puis c'est ça. C'est un dispositif qui retentit à la sortie d'un commerce. Puis il s'agit d'un vol dans 50 % des cas ou quelque chose qui n'est pas désactivé comme il faut. Là, on est en train de revoir un peu la manière dont on va faire, mais c'est tout nouveau et pas nécessairement tout beau vu la situation. On va se parler des nouvelles aussi qui font réagir à tous les jours, mais qui peut-être sont sur la couverture parce que justement, ça traîne, mais c'est important. La mort des pompiers du côté de Saint-Urbain, ça continue de faire réagir. Puis là, on dit que Saint-Urbain serait trop petite comme ville pour appliquer des mesures d'urgence. Donc, ça sort de tout ce qui est discuté en ce moment par rapport à cette tragédie-là. Je vous rappelle, on est près d'un an après les inondations qui ont coûté la vie à deux des pompiers volontaires dans la municipalité de Saint-Urbain. Et là, on serait toujours incapable de gérer un événement comme ça sans l'apport de ressources externes. C'est ce qu'on conclut. Et c'est l'actuel directeur général de la municipalité, Martin Guérin, et la mairesse même, Claudette Simard, au quatrième jour de l'enquête publique sur le décès de Régis et Christopher Lavoie, fait par une coroner, bien sûr, qui a découlé ces informations-là. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs et de formation par rapport à ces sauvetages qui ont été faits. La problématique étant les inondations menacent souvent les mêmes secteurs. Hein. Souvent, le cours d'eau n'a pas changé de place et il faut une politique de mesures d'urgence qui est augmentée, qui est mieux préparée, parce que oui, les employés vont vouloir aider les résidents, mais quand on se rend compte qu'on n'a pas ces formations-là, puis finalement, ça a mis la vie en danger, pas juste en danger, ça a coûté la vie à deux pompiers volontaires, mais on se pose des questions beaucoup plus importantes. Finalement, on ne veut pas faire de choix. Alors, comment on va arriver à ne pas faire de choix et ne pas revoir une tragédie comme celle-ci? C'est ce qu'on est en train d'étudier avec le rapport de la coroner. Il y a un ex du Rouge et Or qui est en prison pour possession de pornographie juvénile. Il s'agit de Maxime Boivin. Lui a été expulsé du Rouge et Or en raison de son dossier judiciaire. C'est un ex-membre de l'équipe de football qui est condamné à 6 mois de prison pour avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile. Là, c'est la juge Chandra Rioux qui a imposé cette peine-là. C'est réclamé, bien sûr, par la poursuite là, contre Maxime Boivin. Et c'est la sanction minimale prévue au code criminel pour une infraction comme celle-là. L'avocat du jeune de 20 ans lui avait contesté la constitutionnalité de la peine minimale. On la qualifiait totalement disproportionné pour le client en question. Mais là, on a rappelé qu'il y avait des arguments importants. On a proposé justement de condamner le footballeur pour ses actes, en fait. Et je vais vous les répéter, là. C'est... il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. Il a été arrêté en juin 2022. Il y a eu une dénonciation par le réseau social Snapchat et le joueur de ligne défensive a été fouillé. Puis on a vu effectivement qu'il avait en sa possession trois fichiers vidéo qui montraient des filles âgées de 5 à 8 ans qui avaient des rapports sexuels avec des adultes. Donc voilà, Maxime Boivin, derrière les barreaux. Il va devoir respecter aussi une probation de 2 ans. Puis la juge a restreint son utilisation d'Internet. Il ne pourra pas accéder à des réseaux sociaux. Du côté de nos amis les États-Unis, il y a Trump qui fait beaucoup réagir. Restriction de parole. Trump est reconnu coupable d'outrage au tribunal. C'est dur pour Donald Trump se mettre entre les lignes, suivre les règles et surtout faire ce procès-là. Parce que le juge Joan Merchan, qui préside le procès criminel de l'ex-président Donald Trump, qui se tient à New York, je vous rappelle, il a conclu qu'il avait contrevenu à l'ordonnance du tribunal qui imposait le silence sur certaines personnes liées au procès. Et avant le procès, on avait très bien interdit à Donald Trump de s'en prendre publiquement aux témoins, aux jurés, au personnel du tribunal. Il y avait une restriction qui avait été étendue même aux membres de sa propre famille et à celle du procureur du district de Manhattan. Et on a estimé que Donald Trump avait contrevenu à cette restriction-là 9 fois, plutôt qu'une, et l'a condamné à une amende qui totalise 9 000 US, c'est 1 000 $ US par violation. Donc, les procureurs ont targué que Donald Trump avait violé l'ordonnance 10 fois. Mais voilà pourquoi il va devoir payer en conséquence son 10 000 $US. Mais la semaine dernière, là, les procureurs ont essayé de le restreindre puis de lui faire comprendre que la cour, c'est la cour. Actuellement, il est devant juge pour un procès criminel. Donc, on essaie de lui faire rentrer dans la tête que c'est, somme toute, très important ce qui est en train de se passer. Mais Donald Trump fait de Donald Trump, encore une fois. Et pendant qu'il est en cours, il se fait accuser pour d'autres choses et, bien sûr, taper sur la tête. Je ne sais pas, 10 000 $ pour lui, ça ne doit pas être grand-chose après tout ce qui lui pend au bout du nez. Mais malgré tout, j'espère que ça va lui faire comprendre que c'est important, tout ça. Hein? Il est à l'écoute là, de leur CV. J'espère qu'il entend bien. Dans un instant, on va aller rejoindre notre ami, le prof dans cause, qui va se joindre à l'émission. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé et on a beaucoup de nouvelles à parcourir avec lui. Puis on veut savoir aussi pourquoi il a arrêté de faire de la chronique. Pour lui, c'était tellement important de se prononcer sur l'éducation, faire savoir ce qui se passe sur les bancs d'école. On n'avait jamais vu ça ou presque là, dans les médias avant le fait qu'il se soit associé avec des collègues puis qu'il avait décidé d'avoir sa chronique du prof puis de parler dans les médias. Pourquoi est-ce qu'on est tanné de faire ça? On va lui poser une couple de questions à Sylvain. En cause.
Vous voulez vendre? Ça tombe bien, nos cafés sont aussi réconfortants chauds que froids. Profitez du printemps, une gorgée à la fois. Cafésobab.com.
L'RCV avec Pascal CV.
C'est vrai qu'un petit café chaud avec un 9 degrés comme maximum aujourd'hui, quelques nuages, ça fait du bien d'avoir ça pour notre journée de travail. Hey, vous avez réagi énormément à la nouvelle des voleurs de viande, là. C'est vrai que ça surprend qu'on ait à mettre des codes de sécurité puis des alarmes sur un T-bone parce que les gens sont rendus à les voler. Mais là, on parle pas de Gérard qui fait tout ce qu'il peut pour nourrir sa famille puis qui prend une très mauvaise décision en volant un T-bone caché dans son manteau. On parle vraiment de, je vous le jure, de réseaux de bandits de viande et de produits de luxe qui s'est installé au Québec. Là. Il y a des commerçants, des épiciers qui ont décidé justement de mettre les bouchées doubles pour peut-être arrêter ce fléau-là. C'est vraiment considéré comme étant un fléau. Ça vous a fait réagir beaucoup de textos. Quelqu'un qui dit « C'est pas pour rien maintenant qu'on a des caméras partout dans les restaurants, les épiceries, pour repérer les voleurs. Mon fils travaille dans une épicerie et il en voit énormément des voleurs. » Quelqu'un qui dit « Quand j'avais 16 ans, je travaillais dans une épicerie. Il y avait des employés qui sortaient des caisses de bière par la porte en arrière et un avait été mis à la porte. » Et le fils de l'autre était resté en poste. Ça avait brassé, mais les gars étaient... ils n'étaient pas majeurs. Et c'est peut-être ça qui les a sauvés, là. Mais voilà, ils volaient des caisses de bière en les faisant sortir par en arrière. Vous, avez-vous déjà fait des affaires comme ça? Ça continue, il y a des gens qui disent qu'ils ont déjà été contraints d'arrêter des itinérants qui volaient des steaks pour les revendre à certains restaurateurs. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Voyons ça... Rictus, là, sur Twitch, en passant, vous pouvez venir. Là, on a une grosse conversation au twitch.tv/blvd/FM. Des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'individus qui ont commencé à commettre des petits vols ici et là parce qu'effectivement, les temps sont durs. Oui, mais est-ce que tu pars tes valeurs dans ce moment-là? Puis il y a souvent cette réflexion-là. Il y a une histoire que je me souviendrai toute ma vie. Une de mes amies qui est partie en voyage du côté de l'Afrique, puis il est arrivé quelque chose de super triste. Pas nécessairement tragique, mais triste, traumatisant. Elles se sont fait voler, là, puis d'une manière particulière, avec des menaces, avec une obligation de suivre jusqu'à un guichet pour sortir de l'argent, etc., etc. Et complètement traumatisée, elle est revenue au Québec par la suite parce que ça avait brassé veux-veux pas. Et malgré tout, ce qui en ressortait de son discours, de son traumatisme et autres, elle dit que c'était pas des gens qui étaient méchants, c'était des gens qui avaient rien. Pour eux, c'est une façon qu'ils avaient trouvé de s'en sortir avec, bon, c'est sûr, un manque de jugement, des valeurs qui sont mises de côté. Mais elle dit qu'ils voulaient tout faire pour nourrir leur famille. Puis, ils avaient trouvé que cette façon-là fonctionnait. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire que c'est humain. Mais elle pardonnait, vu que, justement, ce n'était pas des mauvais individus, mais qui voulaient, justement, sauver leur famille. Puis là, c'est peut-être ce qu'on voit aussi, des gens qui veulent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne la nouvelle, c'est vraiment des gens qui se mettent ensemble dans un réseau de vols à l'étalage dans plusieurs épiceries au Québec sous n'importe quelle bannière. Et maintenant, vous allez voir une petite étiquette jaune, des fois, sur... des denrées pour que ça sonne. Si jamais vous n'avez pas payé ce que vous devez payer. Mais on dit que les membres du Conseil québécois du commerce de détail ont rapporté une hausse importante de ces crimes-là. Et pour les vols qui ont été répertoriés, c'est l'équivalent de 1,8 milliard de dollars en marchandises seulement en 2023. Et la part de marchandises déclarées volées, ça représente 1 % des ventes totales quand c'était à 0,7 en 2021. Donc, il y a vraiment une statistique qui montre cette hausse-là. Une nouvelle qui m'a un peu surprise aujourd'hui, c'est celle d'une espèce invasive de vers toxiques qui a été repérée à deux pas du Québec et on titre « Ils sont ici ». C'est horrible, la photo, honnêtement. T'as pas le goût de voir ça quand tu viens de te réveiller. Il y a une espèce de vers invasif, dangereux même pour les petits animaux, qui pourrait mesurer jusqu'à un peu moins d'un mètre. C'est long, en pas à peu près. Et il est bien installé en Ontario. Il a franchi la frontière américaine, c'est ce qu'on dit. Puis on est surpris de les voir, on sait pas trop c'est quoi. On dirait presque un serpent. Puis quand tu coupes ce vers-là, ben chaque morceau devient un nouvel individu, disons-le comme ça. Puis c'est ce qui inquiète, parce que le biologiste de laboratoire, puis expert en verre, je disais ce matin, ça n'a pas de sens, ce métier-là. Il en faut, mais je ne le ferai pas. Qui s'appelle John Reynolds, en a parlé à CTV News et a dit « Oui, c'est bien rendu chez nous. C'est un verre plat à tête de marteau qui a été aperçu dans le sud de l'Ontario et notamment dans certaines régions un peu plus près de chez nous, dont 500 km de la frontière avec le Québec. » Alors, le média anglophone nous donnait cette magnifique nouvelle aujourd'hui. Et c'est un verre qui est originaire d'Asie du Sud et son nom là, tient de la forme plate de sa tête dont on a parlé. Donc, ce beau verre-là est rendu près de chez nous. Puis on espère vraiment qu'il ne soit pas plus, présent dans nos forêts du Québec ou encore sur nos routes, hein, parce que ça, on sait, quand ça sort, ça y va à plusieurs. Et ça crée vraiment une éruption cutanée importante, des picotements sur la peau humaine, puis ça peut même tuer des animaux. Donc, pour nous, humains, ce n'est pas fatal. Pour certains animaux, oui, mais c'est bien rendu près de chez nous. Je le vois, il est à la fenêtre, il est prêt. C'est Sylvain dans cause. Tout de suite après, les Cowboys fringants. Rock Camisole, on va parler d'éducation, mais on va parler de ce qu'on a le droit de justement discuter dans les médias ou pas. Vous savez, il y a une grève de la FAE. Les résultats des élèves sont plutôt stables suite à cette grève-là. Puis on va savoir aussi tout ce qui va se passer en termes de droit avec le sujet dont on a parlé hier, soit le port d'objets, de signes religieux dans nos écoles. On est encore dans ce débat-là quelques années plus tard. Ça va même en Cour suprême. C'est Sylvain dans cause dans un instant. Les Cowboys fringants, Rock Camisole, comme je vous lançais à Boulevard 102.
L'heure CV avec Pascal CV. Boulevard 102.
Tiens, un revenant en studio. Ça faisait un bout qu'on n'y avait pas parlé. Puis, il écoute, par exemple, je le sais parce qu'il m'écrit, pendant l'émission ou après, il va aller ressaisir des petits moments qu'on aura fait ensemble dans leur CV. Pas lui et moi, mais vous et moi, la gang, parce que vous textez énormément aujourd'hui. 418-971-1021, si ça vous dit aussi de partager vos histoires. Des fois, ce sont pas très drôles, là, des histoires de vol aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce sujet-là qui attire autant l'attention. Et même pour notre invité, Sylvain Dancause, prof à l'école secondaire de la Côte-Vidoise, ancien blogueur dans le Journal de Québec, on en parlera de ça, et notre collaborateur régulier ici à l'heure CV. Salut Sylvain.
Bonjour Pascal.
Toi, t'écoutais l'émission en t'en venant.
Oui.
Puis ça t'a accroché comme tous les auditeurs, ces histoires de vol-là. Puis t'as dit, moi, j'ai déjà travaillé dans une quincaillerie, puis j'en ai vu des vertes et des pommures.
Oui, j'ai travaillé à l'intérieur d'une quincaillerie. J'ai travaillé aussi dans la cour à bois, dans une quincaillerie.
Mais là, commence pas à me dire qu'on volait des 2x4 puis c'était subtil, là?
Non, 2x4, non, mais plus à l'intérieur. Okay. Là, j'ai vu des madames prendre leurs sacoches, mettre des vis, des clous.
Pourquoi des madames?
Ben, ça...
C'était vraiment des dames.
Ben, probablement.
Celles que vous avez poignées. Mais c'est sûr que la sacoche est plus subtile.
Ben, exact. Je pense que le souvenir que j'en ai, c'est le souvenir de la sacoche, mais aussi c'est le souvenir de dire, on dirait que c'est ma mère qui vole des vis.
Ah, pour vrai, c'est des vieilles dames.
Ben, c'est des dames. Ben, c'est sûr que quand t'as 17-18 ans, t'sais, vieux, des fois, c'est relatif.
Oui.
Là, c'est pas
à 30 ans, ça se peut qu'elle soit vieille, oui.
Exactement. Dans la cour à bois, je me suis déjà fait voler mon galon à mesurer par un client sans trop m'en rendre compte.
Ah, oh, ça devait être le sien. C'est trompé.
Probablement qu'il est parti par inadvertance avec mon galon. Mais j'ai une amie qui a travaillé longtemps dans un supermarché quand on était justement adolescent. Puis je me rappelle qu'elle m'avait conté une histoire qui m'avait fait rire, mais qui est quand même un peu triste, mais tu parlais de tes
vol
histoires.
De vol de T-bone et tout, là.
Exact. Puis la dame s'était présentée à la caisse, puis la dame saignait du front.
Okay.
Donc, mon ami va la voir. Puis, madame, êtes-vous correct? Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Madame, voyons, asseyez-vous, vous saignez, ça n'a pas de bon sens. Puis, c'était l'hiver, donc ils ont enlevé la tuque de la dame.
Non.
Et sous la tuque, il y avait une livre de steak haché. Et c'était le steak haché qui coulait dans son front. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu triste quand même, parce qu'on s'entend que c'est quelque chose, ça engendre une certaine empathie. Il n'y avait pas eu de plainte à ce moment-là.
Mais où l'empathie, Sylvain?
Non, mais...
Ça s'appelle le karma. Mais c'est sûr que si elle a décidé qu'elle était rendue au point où elle se cachait une livre de steak haché dans le tuc, ça se peut qu'il y ait plus de difficultés à la maison.
Exact.
Ou encore... qu'il y a eu, je sais pas moi, un très mauvais pari.
Non, je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin.
Qui avait besoin.
Oui, c'est pour ça que les employés avaient été très conciliants. Je pense même qu'elle était partie avec
on lui avait
la viande. Mais la situation m'avait quand même fait rire, tu sais. Nonobstant tout ça, là, il reste que j'imagine la scène avec le sang qui coule dans le front. Puis
madame, si vous saignez énormément, faudrait qu'on vous aide. Ben voyons donc, en avez-vous des comme ça? On dirait que tout le monde a travaillé un jour ou l'autre au service à la clientèle, puis on a des anecdotes qui n'ont pas de sens. Là. Moi, je travaillais longtemps dans un casse-croûte qui était à Beauport, puis on a déjà des gens qui étaient entrés en arrière, puis commençaient à voler des patates, mais pas cuites, celles que tu coupais. On dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On a toujours pensé que c'était peut-être... Des gens engagés d'un autre casse-croûte, il y en avait manqué, puis ils étaient venus nous en voler.
Possible.
Mais voler des caisses de patates comme ça, coupées, c'est particulier. Mais c'est drôle que tu dises le sang qui coulait, parce que justement, avec Red, ce matin, quand on parlait des vols, on disait, mais voyons, tu as un T-bone tout croche dans ton manteau, ça paraît.
Ouais.
Fait que là, on a la meilleure histoire avec toi. Parlant d'histoire, tu vas arrêter d'en raconter. Dans le Journal de Québec, tu as signé ta dernière chronique la semaine dernière.
Oui.
C'est après 8 ans. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi t'as cessé ce parcours du combattant-là qui te tenait tant à cœur? En même temps, tu le fais ici à Boulevard 102.1, puis on te remercie de ne pas nous lâcher, mais, mais pourquoi t'as arrêté d'écrire?
C'est une bonne question. Ben, tu sais, écrire, c'est quand même exigeant. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais tu sais, d'emblée, moi, je suis pas un... T'sais, j'ai étudié en sciences, j'ai un bac en biologie, t'sais, j'ai un DEC en sciences nature. T'sais, j'ai jamais étudié en français, en littérature... c'est une passion d'écrire, puis la passion venait aussi du fait que j'adore l'éducation, puis j'aime parler d'éducation. Puis tu sais, ça date en 2015.
Mais personne faisait ça. Avec moi, je t'avais vu comme un précurseur, en fait, de ceux qui respectent, mais ne respectent pas le droit de réserve en éducation, qui regardent un peu tout ce qui se passe autour de lui, puis qui va à la guerre pour ses collègues, pour les jeunes, pour des parents incompris dans certaines situations d'actualité. Là.
Bien, tu vois, tu sais, dans les années 2000, début 2010 à peu près, il y avait un blogueur qui existait qui s'appelait le professeur masqué. Je lisais ce qu'il écrivait. Puis je me disais, tu sais, c'était très intéressant, parler un peu d'éducation, mais on savait pas c'était qui, tu sais, à cause justement du devoir de loyauté puis du devoir de réserve. Puis après ça, ben autour de 2015, j'avais un peu le feu derrière dans ces années-là par rapport à différentes affaires qui se passaient. Puis
te souviens-tu qu'est-ce qui te...
Ben, en fait, oui, c'est une négociation de convention collective à l'automne 2014. J'avais lu les offres patronales, j'avais regardé un peu ce qui se passait, puis j'avais un peu...
Un autre automne, c'est ça?
Exactement. C'est le jour de la marmotte.
Oui.
Puis j'avais écrit un texte qui avait été publié dans la presse et dans le Devoir, qui avait été beaucoup partagé, qui avait créé un peu de remous. Puis j'avais eu un appel d'une émission de télé qui s'appelle « Deux hommes en or » qui existe encore. Oui. Finalement, je n'étais pas allé, là, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, je me disais, hein, tu sais, ça.
Les gens veulent en parler.
Ça a eu de l'effet quand même. Tu sais, mon nom était là, ma face était là, je ne m'étais pas caché. Puis après ça, j'ai écrit quelques lettres qui avaient été publiées dans la presse. Puis après ça, histoire de gaucho à la pêche avec des amis qui sont profs, des collègues que je connais encore et que je côtoie encore. Puis on avait dit, tu sais, pourquoi ça se fait pas?
Pourquoi
personne
en
parle ou écrit à visage découvert? Tu sais, pourquoi il y a un professeur masqué, mais pourquoi il n'y a personne? Tu sais, c'est beau le devoir de loyauté, mais il me semble qu'il faut aller au-delà de ça. J'avais décidé à ce moment-là, en 2015, d'écrire sous mon propre nom. Puis c'était un blog personnel à l'époque, en 2015. Puis j'avais continué à écrire des lettres qui avaient été publiées soit dans Le Devoir ou dans la presse. Puis j'ai reçu un téléphone à l'automne 2016 du journal. Puis il partait un projet. À l'époque, il avait appelé ça le blog des profs. On était quatre, puis deux profs du primaire, deux profs du secondaire. On avait dit oui tous les quatre. On s'était lancés dans l'aventure. Puis bon, ça a duré quelques années. Puis après ça, ça a comme disparu. Puis moi, je suis revenu sous mon propre nom, là, dans le... Exact, dans le cahier perspective.
Puis là, t'arrêtes. T'arrêtes pourquoi, Sylvain? As-tu baissé les bras? Pour vrai, as-tu baissé les bras face à tout ce que vous ne... Faites pas rayonner en éducation ou encore ce que vous essayez de mettre en lumière comme lacune, puis qui finalement, c'est pas écouté, puis après ça, on vous retape sa tête des négociations parce que vous êtes représenté, et ces paroles n'engagent que moi, par des syndicats qui nous martèlent toujours une histoire de salaire.
J'ai pas baissé les bras, mais c'est sûr que dans une année, tu te poses souvent la question, puis je me la pose depuis 2015, tu sais, pourquoi j'écris ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va donner, je perds mon temps. Ça, c'est des réflexions, je pense, normales. Puis, ben, d'autres moments, je me dis, bon, ben, ça a eu de l'impact, ça a eu de l'effet, ça a eu un effet boule de neige, il s'est passé quelque chose. Ah, il y a de plus en plus de monde qui ose prendre la parole.
Fait que tu prends ton souffle.
Fait que là, tu dis, OK, bon, ben, c'est bon, il y a un effet d'entraînement, on continue. Puis, tu sais, ben, moi, je trouve que c'est le fun. Ça m'a amené à découvrir aussi d'autres médias. T'sais, depuis 3 ans déjà, je fais beaucoup plus de radio. J'ai fait un petit peu de télé aussi. En direct. J'aime beaucoup le direct.
Mais t'arrêtes pas.
Non.
Mais tu vas choisir.
Je pense que oui. Puis, tu sais, quand ça fait 8 ans, ben c'est normal, je pense, de se remettre en question. Puis ça veut pas dire que je vais arrêter de faire des commentaires ou que je vais arrêter de commenter l'éducation. Je pense que je suis pas capable d'arrêter.
Mais est-ce que tu commentais finalement toujours les mêmes choses puisque ça ne se réglait pas? Je te donne un exemple. Pour avoir suivi des journalistes qui faisaient on appelle du journalisme généraliste à toutes les années, dans l'agenda, il y a par exemple le 9 avril, ah oui, c'est vrai, refaire une demande d'accès à l'information sur combien d'enseignants il manque dans nos écoles. Puis là, chaque année, c'est un peu la même chose. On sait qu'on va faire les mêmes demandes, on va revenir sur les mêmes sujets, on va faire des suivis, ce qui est super important en société, mais qui peut être un peu blasant. Surtout quand tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé à travers les dernières années?
Bien, je pense que c'est bon d'avoir une mémoire collective. Je pense que c'est bon de ramener certains sujets puis que des gens qui disent « Oui, mais ce sujet-là, on en parlait en 2017. Oui, mais ce sujet-là, on en parlait en 2019. » Je pense que c'est pas mauvais de ramener une certaine mémoire collective par rapport à ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Ben, il reste que, oui, ça peut devenir un peu lassant, mais c'est pas juste non plus de parler de la politique en lien avec l'éducation. Je pense que de parler de pédagogie, parler d'évaluation, parler de nos jeunes au primaire ou de nos jeunes au secondaire, tu sais, l'éducation, c'est très, très large. Oui, il y a l'aspect politique de l'éducation, mais il y a tout le reste que je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a tous une idée de ce qu'est l'école parce qu'on est tous allés à l'école au primaire et au secondaire, généralement.
Mais ça change toujours avec les réformes, avec les générations, les réseaux sociaux, les cellulaires, ça a tellement changé au courant des dernières décennies.
Bien, tout à fait. Puis je pense que c'est important aussi beaucoup de parler de pédagogie parce que souvent, on a l'impression que c'est intuitif. Bon, c'est à peu
tout
près...
Tout le monde peut enseigner.
C'est aléatoire. Bon, pourquoi faire un bac de 4 ans? Bon, comme dirait M. Drainville, n'importe quel adulte va faire l'affaire. On a comme une espèce de pensée magique que ce travail-là peut se faire sans trop étudier là-dedans, puis que spontanément, si tu as eu des enfants ou si tu es allé à l'école, tu vas être capable de le faire, alors que on n'a pas cette pensée-là pour d'autres corps d'emploi nécessairement.
Parce que c'est une différence de prendre soin des jeunes et d'enseigner à des jeunes?
Bien, il y a plein d'approches pédagogiques qui existent, puis il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Il y a des choses qui sont neutres, donc qui ne vont pas vraiment être efficaces, mais qui ne vont pas nuire non plus. Il y a plusieurs choses qui peuvent aider, puis il y a des choses qui peuvent nuire. Fait que, tu sais, c'est un ensemble, mais il faut avoir certaines connaissances, puis je pense que de transmettre ça, moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, comme prof, qu'est-ce que tu as le goût? Tu as le goût de partager des choses, tu as le goût de voir quelqu'un à un certain endroit, puis tu veux le voir progresser, tu sais, fait que, puis ça, c'est vrai avec des jeunes du primaire, c'est vrai avec des jeunes du secondaire, comme prof, mais moi, quand je suis avec des gens, j'ai le goût aussi de discuter, de comprendre, d'essayer d'aller plus loin, puis tu sais, je suis pas fermé dans le sens où j'essaie de rester ouvert pour tenter de m'améliorer, puis je pense que ça, c'est un esprit que tu as quand tu es prof, mais en tout cas, j'espère que tu l'as, parce que si tu ne l'as pas, t'es peut-être pas dans le bon métier si t'es fermé et t'as pas le goût d'entendre les autres. Fait que je pense que c'est un goût de partager tout ça aussi.
Ça, c'est avec la pédagogie.
Ouais.
T'entends-tu derrière?
Ouais, j'entends. C'est pas la musique dans Top Gun.
Top Gun. On vient d'en annoncer une Top Gun en santé. Geneviève Biron. Quelle part du privé pour venir gérer le public?
Ouais.
Faudrait-tu un Top Gun ou une Top Gun en santé pour être aux côtés d'un ministre?
En éducation?
En éducation.
Je le sais pas. On essaye quelque chose. Tu vois, avec le projet de loi 23 du ministre Drainville, il y a l'Institut national d'excellence en éducation qui verra le jour sous peu. On verra quel est l'angle qui sera pris par ce nouvel institut-là. On verra.
Parce que privé-public, là, ça reste un débat qui est continuel. Puis, on s'est parlé dans les dernières semaines quand il y a eu des articles sur le fait que ben, les élèves réussissaient plus au privé qu'au public. Ça a fait énormément jaser. On en parle aussi de façon...
Je fais pas...
Il y a des lignes aussi par rapport à tout ce qui est enjeux sociaux qui sont amenés depuis quelques jours par rapport à la DPJ, les jeunes dans le contexte scolaire, au public, comment est-ce qu'ils, des fois, n'ont pas toujours les filets sociaux qu'ils doivent avoir pour performer. Un sur trois n'aura pas les études des autres s'ils sont passés justement par la DPJ. Est-ce que toi, tu es encore dans ce débat-là privé-public? Parce que c'est ça, on va chercher quelqu'un là, au privé pour travailler dans le public. En éducation, ça devrait-tu être la même affaire? Parce que côté administration, ça fonctionne mieux au privé?
J'ai de la difficulté à tracer des parallèles entre la santé et l'éducation. Premièrement, je ne connais pas assez le monde de la santé pour m'avancer sur un terrain qui est glissant.
Puis en éducation.
Comme prof, j'ai toujours fait attention à ce que je disais parce que je me dis que quand je prends la parole, justement, de ne pas parler à travers mon chapeau, je pense que c'est important. Il y en a en masse qui font de la chronique sur plusieurs sujets. Je leur laisse ça. Moi, j'essaie de me concentrer sur ce que je connais puis sur quoi je suis à l'aise puis que je vais me qualifier entre guillemets d'expert. Là.
Puis justement, si on va en éducation, le privé. Ben, c'est public en ce moment, 2024?
Ouais, ben c'est un autre débat, là. C'est un choix de société. Est-ce qu'on finance nos écoles publiques, oui ou non? Puis si on les finance, à quelle hauteur on devrait les financer? T'sais? Fait que ça, c'est un débat qui a lieu depuis plusieurs années. Puis c'est difficile de comparer public et privé. Je veux dire, quand tu décides d'aller dans une école privée, ben il y a minimalement deux types de sélections qui vont s'opérer. Il y a une sélection par les résultats scolaires qui peuvent s'opérer. Puis dans certaines écoles, on va dire, ben non, on ne sélectionne pas vraiment nos élèves en fonction de leurs résultats scolaires. Non, mais tu sélectionnes les élèves en fonction du portefeuille de leurs parents. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, 72 ou 73, je vais de mémoire, % de la clientèle vient d'un milieu socio-économique qui est favorisé. Tu sais, fait que arrêtons de dire que oui, on prend des... Bon, il y en a des écoles qui font ça, mais tu sais, ça reste une minorité. Fait qu'habituellement, il y a une double sélection. Ou minimalement une sélection sur deux qui se fait, comme je te dis, soit par le portefeuille
ou
par les notes.
Santé, éducation, privé et public en éducation, ça se compare pas.
Non, je pense pas. T'sais, l'effet de concurrence en éducation, ça a déjà été démontré maintes et maintes fois. L'effet de concurrence n'amène pas plus de réussite ou améliore pas un système éducatif. T'sais. Fait que ça, c'est un mythe en éducation. Puis si c'était le cas, je peux te le dire qu'à Québec et à Montréal, les écoles publiques seraient extrêmement performantes parce que de la concurrence, il y en a à tour de bras. À Montréal, il y a beaucoup d'écoles privées. À Québec, il y a beaucoup d'écoles privées. Il y a le palmarès qui existe des écoles. Puis on ne voit pas depuis la fin des années 90 aucune amélioration par rapport à cet effet de concurrence-là. Fait que, tu sais, c'est un mythe, l'effet de concurrence en éducation. Mmh. Je ne m'avancerai pas sur la santé, mais en éducation, ça n'existe pas, l'effet de concurrence. Ça n'a pas d'impact. Les écoles publiques ne seront pas meilleures ou on ne sera pas plus performant parce qu'il y a un système parallèle qui existe.
Parce que ça travaille en silo.
Ou un système privé. Ben ici, le système, tu as des écoles vraiment privées, tu as des écoles qui ne reçoivent aucune subvention, mais tu as la plupart des écoles au Québec. Je les qualifierais de presque publics parce qu'ils reçoivent quand même des subventions assez généreuses.
Importante. On va terminer la chronique sur ce qui fait beaucoup parler dans les dernières heures. On a jasé avec Frédéric Bérard, notre chroniqueur hier, qui est avocat. La loi sur la laïcité, puis on a parlé avec parce qu'il est dans le dossier, puis pas à peu près. La FAE est en Cour suprême pour réclamer un encadrement de la clause dérogatoire. C'est un exercice de droit quand même important. On peut sortir l'opinion de la chose, on peut sortir tout ce qui est choix de société. C'est vraiment un exercice de droit qui est important. Mais pour ceux qui ont des opinions, ben c'est entre autres la Fédération autonome de l'enseignement qui a rejoint ce combat-là pour faire invalider la loi sur la laïcité de l'État devant la Cour suprême. Là, le débat va avoir une portée d'un bout à l'autre du pays parce que tout le monde le regarde et le syndicat des professeurs demande d'encadrer ce recours-là à la clause dérogatoire par les gouvernements pour éviter des dérives qu'on dit populistes. En fait, on ne veut pas que ce soit un arbitrage, à la saveur d'opinion qui se fasse dans nos écoles. Comment est-ce que tu te positionnes dans ce débat-là, toi? Entre autres, ce qui fait beaucoup jaser, c'est le fait d'inclure, dès l'adoption du projet de loi, l'interdiction de port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, puis ça en fait partie des enseignants dans ces adultes en autorité là, auprès des élèves. T'es pour ou contre? T'as une position? T'as une frustration? Tu en penses quoi, Sylvain Dancause?
Ben, tu sais, je pense qu'on soit pour ou contre la loi 21. Je laisse les gens se faire leur propre idée par rapport à ça. Il reste que, moi, la question en tant que membre de la FAE, parce que comme enseignant, je suis membre de la FAE, c'est est-ce que mon syndicat a à mener ce combat-là? Je trouve que c'est peut-être très maladroit de leur part. Puis en plus, avec ce qu'on a vécu cet automne, qu'on repense à la grève générale illimitée, qu'on
c'est
repense
toujours pas réglé tant que ça.
À la saga des votes qui ont été interminables et très partagés, que la FAE se lance là-dedans. Tu sais, il y en a plusieurs qui trouvaient, après la saga des votes et de la grève générale illimitée, que peut-être que certaines personnes à l'exécutif de la FAE auraient dû démissionner compte tenu du fiasco. On vient en ajouter une couche cette semaine et si tu vas voir le site Facebook de la FAE, le nombre de commentaires négatifs à l'endroit de la FAE est astronomique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de membres qui sont fâchés et frustrés de pas avoir été vraiment consultés là-dessus. Là,
D'être inclus dans un débat que vous auriez peut-être pas fait, que vous n'auriez peut-être pas voté pour faire non plus, qu'on ne vous laisse pas nécessairement le choix, puis finalement, on concentre les énergies de la FAE là-dessus en Cour suprême.
J'ai hâte de voir, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de membres qui sont présentement très fâchés de ça. J'ai essayé de retrouver l'historique de tout ça. J'ai vu 2013 en lien avec la charte du PQ dans le temps du ministre Drainville. J'ai vu 2014-2015. Ça semble...
profite à qui, finalement?
Ben, je le sais pas.
C'est ça la question?
C'est pas clair pour moi. Il faudrait que je fasse plus de recherches pour aller voir un peu l'origine de tout ça.
Y a-t-il des gens qui ont levé la main, soit des enseignants à l'intérieur même de la FAE, puis qui ont dit « Nous, on est brimés par tout ce qui est adopté de cette loi-là, puis on n'est pas en accord, alors partez en Cour suprême pour nous défendre et défendre nos droits fondamentaux? »
C'est une excellente question.
Parce que ça, j'ai vu ça nulle part dans mes recherches.
Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas vu de plainte en bonne et due forme de la part de certains membres. Je sais qu'il y avait une clause grand-père qui existait aussi par rapport aux gens qui étaient déjà engagés, tu sais, comme enseignants, enseignantes. Je le sais pas, mais je trouve, en tout cas, tu sais, est-ce que c'est vraiment le rôle de la FAE d'aller se jeter là-dedans? Puis comme je te dis,
ça vous fait-tu mal paraître, tu trouves, en tant qu'enseignant?
Je pense que oui. Ben oui, on paraît mal. Parce que, tu sais, le message, c'est les enseignantes et les enseignants de la FAE sont pour ou sont contre, tu sais. Mais je veux dire, moi, je me rappelle pas d'avoir voté pour ça. Là, fait que, à moins que j'aie passé quelque chose. Puis qui a voté? Combien de personnes étaient présentes? Ça représente quel pourcentage des membres enseignants-enseignantes de la FAE?
C'est-tu dépassé un syndicat, Sylvain, en éducation?
Ben, je pense pas que c'est dépassé. T'sais, un syndicat, c'est pas dépassé parce que je vois beaucoup d'enseignantes et d'enseignants ou d'employés de soutien, des professionnels qui vivent des choses parfois et qui ont besoin d'un syndicat pour les défendre. Et si le syndicat n'était pas là, les gens sont pas toujours gentils, les gens sont pas toujours honnêtes. Puis il y a des gens en autorité parfois qui abusent de leur statut. Fait que je pense qu'un syndicat, c'est indispensable et c'est important. Puis il doit être là. Après ça, c'est, ben OK, ben là, on parle de conditions de travail, on parle d'être bien dans son travail, on parle, tu sais, d'intimidation, tu vois. Mais après ça, d'aller prendre les cotisations pour aller mener un combat jusqu'en Cour suprême sur ce point-là, je suis pas certain. Là, je serais curieux de voir.
Qu'est-ce qui tombe en deux craques? Qu'est-ce qui n'est pas travaillé par la FAE que ben, vous vous attendiez à ben, ce que ce soit fait?
Eux autres, ils vont dire qu'ils vont tous continuer à mener le dossier de front. Là. C'est ça qu'ils vont te répondre. Là. Mais, moi, je le sais pas.
Mais
là.
Admettons là, que toi, tu te prononçais là-dessus. Qu'est-ce qui est en deux chaises puis qui est en attente parce qu'on est justement sur un front tout à fait différent?
J'ai hâte de voir la convention collective signée. J'ai hâte de voir la réécriture ou l'écriture de la nouvelle convention collective. On ne l'a pas encore vue. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de changé présentement dans nos écoles. Donc, il n'y a aucun impact immédiat de la nouvelle convention collective. On ne l'a pas lu, la version finale, on ne la connaît pas. Fait que, tu sais, peut-être que ça, c'est un peu plus urgent. Puis, je lisais un texte de Lagacé ce matin, justement.
Il a fait beaucoup réagir.
Sur cette histoire-là.
Même les opposants, Patrick Lagacé, étaient d'accord avec lui ce matin. De messages là, sur Messenger d'auditeurs.
Mais j'aimais sa question à la fin. Tu sais, il disait, ben OK, ben la FAE, si vous voulez mener ce combat-là, je serais curieux que vous demandiez à vos membres qui est prêt à payer de ses cotisations, donc qui est prêt à donner une portion de ses cotisations pour ce combat-là. Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Je pense que le pot serait pas ben élevé.
Serait pas garni.
Si tu poses la question aux 65 000, 66 000 membres de la FAE, je suis pas certain qu'on ramasserait un gros montant pour se présenter en Cour suprême. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui diraient « Bah, sais-tu, je pense que mes dollars, je vais les garder dans mon porte-monnaie. »
J'ai l'impression que vous avez été nombreux en tant qu'enseignant là, à vous dire ça cette année pour bien des décisions de la FAE. C'est effectivement le cas. Il n'y a pas eu de démission. Il n'y a pas eu personne qui a été mis à la porte.
J'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il y a, ce qui va peut-être arriver. Il y a peut-être une pétition à un moment donné qui va sortir. Puis ça, c'est une hypothèse que je fais. J'ai pas de... Je n'ai pas de secret, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a peut-être
quelqu'un...
On
ne connaît pas le futur non plus.
Il y a peut-être quelqu'un qui va dire à un moment donné, bon, ben là, il y a peut-être certaines personnes qui auraient dû démissionner cet automne ou cet hiver suite au fiasco de la grève puis des votes. Là, gang, je pense que... je pense qu'on a fait le tour, puis il y a peut-être quelqu'un qui devrait démissionner ou quelques personnes qui devraient démissionner, parce que là, je pense qu'on abuse des membres.
Merci beaucoup, Sylvain Dacause, pour ce beau tour de l'éducation au courant des dernières semaines. Tu nous as manqué. On a hâte de te revoir de façon plus régulière. Vous pouvez aller lire sa dernière chronique dans le Journal de Québec. Tu l'as publiée la semaine passée.
Oui.
Ta journée normale,
Était
mercredi.
Le mercredi hebdomadaire de la chronique.
La toute dernière de Sylvain Dacause. Ton histoire des vols, parce qu'on parlait d'actualité sur les fameux vols. Je te dis, ça fait réagir, ça me fascine. Il y a des histoires qui sont entrées. Juste avant de terminer l'émission sur ces histoires-là, je dois vous dire qu'il y a un incendie. Il est quand même majeur en plus, l'incendie. Mais si vous avez d'autres informations, 88-971-1021, c'est quatre bourgeois, coin de l'église. Il y a un incendie majeur, bâtiment en construction qui serait en flammes. Donc, s'il y a des gens qui peuvent me donner plus d'informations, 88-971-1021 et on fera les appels conséquents à ce texto-là dans les prochaines minutes. Puis, on termine l'émission ensemble sur deux histoires de services à la clientèle étrange. Il y a Jennifer qui nous dit « Quand j'avais 16 ans, je travaillais dans une épicerie puis il y avait des employés qui sortaient des caisses de bière par la porte. » Puis elle dit, ça, quand tu l'as lu tantôt, Pascal, ça m'a rappelé des fois des gens qui partaient avec des paniers de fruits, mais en faisant semblant que c'était tout à fait normal. Puis un fruit, il n'y a pas vraiment de code, là, tu l'entres toi-même. Fait que ça sonnait pas, puis il n'y avait rien qui se passait, puis des gens qui sortaient avec des paniers de fruits complets. Mais tu sais, rendu là, on peut vraiment se demander si c'était des gens qui avaient besoin de denrées alimentaires là, pour faire ces choix-là. Quelqu'un qui dit, j'ai été bouché 10 ans de temps et majoritairement nos vols de viande étaient de la part des clients quand même fortunés. On voulait que des produits de luxe, mais ils ne voulaient pas payer pour. Mm-hmm. Et ils partaient avec ces produits-là comme si de rien n'était. C'est particulier, ça. Je sais pas, mais... Tu sais, l'expression « avoir du front tout autour de la tête », là. Je sais pas, je serais stressée. Moi, je vais pas m'essayer, premièrement.
Avoir un front de bœuf.
On termine là-dessus. C'était à l'heure CV, en ce mardi. 30 avril, dernière journée pour vos impôts. Hein? Si vous voulez les transmettre sans pénalité, c'est aujourd'hui que vous devez veiller à vos responsabilités de citoyens, citoyennes. Merci pour cette émission-là. Merci Sylvain Dancause.
Ça m'a fait plaisir, Pascal.
Bon retour sur les bancs d'école.
Merci.
Avec les jeunes. Puis dans un instant, c'est Marceau le midi qui commence. Yannick Marceau qui est en feu. On reçoit même Denis Gravel, notre collègue, parce que ce soir, on vous présentera une grande entrevue avec les trois amigos hein, qui défendaient Québec. Ben, Québec, la ville, pendant plusieurs années, même s'il y avait des rififis entre eux, ben, ce qui passait d'abord et avant tout, c'était les citoyens. Puis ça, ça s'est peut-être perdu. Fait que Denis va venir nous parler de cette entrevue-là qu'il va présenter plus tard en fin de journée à 16h sur les ondes de Boulevard 102.1. Il va venir faire son petit tour sur l'heure du lunch. Manquez pas ça. Puis on va jaser aussi avec Geneviève Evrel, qui est atteinte d'un cancer du sein. Cette femme d'affaires-là que vous connaissez, Sushi à la maison et autres. Puis les cas de cancer du sein sont en augmentation d'assez fulgurante. Puis les spécialistes ne sont pas capables de se l'expliquer. Donc, on va avoir une belle conversation avec elle. C'est d'entre autres ce qu'on vous réserve pour votre heure de lunch. Merci à tous. On termine l'émission sur « Vol à l'étalage des trois accords ». Ce n'était pas un choix, c'est un pur radon.